Sakim, Kufiyot Gimel, Amud Alef.
Quelle page?
Kufiyot
On n'entend pas.
Gimel. Et nous sommes quelle ligne? Nous sommes, quand c'est large, la partie large, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le dernier mot de la huitième ligne, Amar Rav Papa. Rav Papa, il a dit, Yuda, alors, Psachim Kuf Yud Gimel Amud Alef, la partie qui est large, la neuvième ligne, Amar Rav Papa. Rav Papa, il a dit, Kol Agav Gav Yebai. On parle ici, on avait dit que Rav, il avait un fils, qu'il a dit que je n'ai pas réussi à te éduquer dans la Torah, bien que tu sois Tamid Chacham, alors tu vas devenir businessman. Et quand on est businessman, il faut travailler avec toute la force pour réussir. C'est Rashi dans Mesechet, Rashi dans Mesechet Barachot. Ceux qui travaillent, il faut qu'ils travaillent toute la force. Ceux qui étudient, qu'ils étudient toute la force. Ceux qui sont militaires, toute la force. Tout ce qu'on veut réussir, il faut investir comme il faut. Comme ça, dit Rashi dans Mesechet Barachot. Alors, Rav, il a dit, comme tu ne réussis pas dans la Torah, eh bien, tu vas faire dans le business, je te donne des conseils pour réussir. Alors, maintenant, c'est tous des conseils pour les businessmen. Alors, Amar Rav Papa, il a dit, Kol Agav, Gav Yebai. Kol Agav, chaque fois quand tu fais un business où tu dois écrire un papier, un contrat, je prête d'argent. Je te prête d'argent et tu me fais un papier que tu me dois ton et ton d'argent. Alors, il y a une faiblesse dans ce genre de business parce que Gav Yabai, on a besoin d'encaisser et ce n'est pas sûr que l'autre y paye. Et des fois, les gens ne veulent pas payer, tu dois les courir derrière. Ça veut dire qu'il donne un conseil, mieux vaut faire un business avec du liquide. Tu donnes la marchandise et il te paye tout de suite. Il te paye en liquide, c'est le mieux. Parce que si tu ne fais pas payer par liquide, tu as un contrat, tu dois me payer, va savoir s'il va te payer. Il y a un problème dedans. Kol Ashrai, ça fait qu'Ati, ça fait qu'Ati. Kol Ashrai, chaque crédit, tu vends au crédit, ça fait qu'Ati, c'est un doute si ça vient l'argent, ça fait qu'Ati, c'est un doute, ça ne vient pas. Et donc, sache que ce ne sont pas les meilleures affaires. Faire des affaires au crédit, ce n'est pas les meilleures. Ou d'Ati, et si même l'autre y paye, ma autre autre, nous, c'est de mauvais argent, pas de bon. Il y a de bon argent, il y a de mauvais argent. C'est quoi? C'est quand l'autre y paye une somme ronde, bien, fort. Ça, c'est de bon. Par exemple, il doit te payer 10 000 euros, il te paye les 10 000 euros, voilà, avec 10 000 euros, on peut faire quelque chose. Mais si l'autre, il doit te payer une dette, tu viens chez lui. Non, vous savez, vous me devez encore 10 000 euros. Oui, ça va. Bon, alors voilà, je vous donne ici 50 euros. Alors, il te donne 50 euros, tu mets dans ta poche. Et après, la semaine prochaine, nous alors, et bon, alors, ici, on vous donne encore 50 euros. Encore 50 euros. C'est de l'argent qui n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que les petites sommes se perdent. Tu mets 50 euros dans ta poche, tu vas les dépenser pour ça. Tu as 50 euros dans ta poche, tu vas dépenser pour ça. C'est à la fin, tu n'auras rien de ça. Ils te donnent 10 000 euros, tu mets à la banque, avec les 10 000 euros, on achète quelque chose. Les petites sommes comme ça, ça sort pour des bêtises. Et ce n'est pas de bon argent. Alors, trois choses, Rabbi Yochanan dit au nom des hommes de Yerushalayim. C'est quoi les hommes de Yerushalayim? Anche Yerushalayim, ça doit être un titre de très grande valeur. Yerushalayim, il n'a pas dit des hommes de New York. Ou les hommes de Shanghai, tu dis les hommes de Yerushalayim, ça doit être des chachamim, des tzadikim. Que shata yotze la milchama, quand tu vas sortir pour la guerre, al teitze barishona, ne sors pas le premier. El teitze barishona, mieux vaut sortir le dernier. Afin que tu seras revenu le premier. Bon, c'est évidemment, il y a ici un machal, il y a un nimshal. Le machal, c'est la guerre, la guerre physique, ce que nous appelons guerre. Mais comme toujours, Chachamim, ils utilisent des connaissances, Ils utilisent des proverbes pratiques, classiques, que tous les gens ils savent dans la vie. Ils utilisent ça après pour le convertir pour un conseil rouhani. Alors ici, quoi? Maintenant, il va à la guerre. Alors mieux vaut pas sortir le premier, parce que le premier qui sort, il sera le dernier qui rentre. Mais le dernier qui sort, il est le plus proche. S'il faut fuir, si on fait la guerre, et après au milieu de la guerre, on voit que ça me tourne par an, il faut retourner à la maison. Ceux qui sont les derniers, ils peuvent rentrer les premiers. Oui, c'est logique. Donc, un bon conseil pour un soldat qui n'est pas trop courageux ou qui veut mettre en tout cas toutes les chances à ses côtés de survivre le plus, qu'il s'arrange, qu'il sorte le dernier. Et donc, comme ça, il s'arrange automatiquement aussi de rentrer le premier. Bon, ça c'est pour la guerre, mais c'est pas ça qu'un Jérusalem raconte, ça c'est tous les soldats, ils le savent. Un Jérusalem, ils veulent faire une allusion ici à quoi? Dans la Rouhaniyout, quand tu sors pour faire la guerre, il y a toutes sortes de guerres. Il y a des guerres entre des gens. Quand il faut remettre quelqu'un en place, il faut faire des reproches à quelqu'un. Des fois, il faut la guerre pour la bonne cause, pour la Torah, pour quelque chose. Mais le problème dans toutes les guerres, même si c'est pour la Torah, il y a toujours un hachash que c'est quand même une guerre. Une guerre, c'est toujours un conflit. Un conflit, il y a toujours ces corollaires des choses négatives. Alors, donc, si, par exemple, dans une communauté, disons, les gens, ils décident, bon, on fait la guerre pour quelque chose et on va blesser quelqu'un, blesser dans le sens moralement ou psychologiquement. On est obligé de faire la guerre des fois quelqu'un. Quelqu'un, il prend une décision qui n'est pas bien. On est obligé de faire la guerre contre lui. Alors, il y en a des gens qui sont des va-t-en-guerre. Ah, ils sont les premiers. Ah, on va lui casser la figure, on y va. Mais alors, même si c'est les Shem Shamaïm, soi-disant, on est obligé de faire la guerre, ils te disent, les gens de Yerushalayim, ne sois pas les premiers d'aller à la guerre. Moi, je te conseille d'être le dernier. Pourquoi? Parce que des fois, dans la guerre, on voit que ça tourne par an. On est obligé de revenir en arrière. On se plantait. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Et ceux qui sont engagés le plus, ceux qui crient le plus fort et le plus haut, il aura le plus du mal après de descendre de l'arbre sur lequel il est monté. Les gens qui font phare des idées maximalistes et ils accusent très fortement les adversaires, ils ont du mal après à regretter et de dire « Aïe, je me suis trompé, ils sont les derniers. » Mais si toi, tu es le dernier de sortir à la guerre, ça veut dire tu laisses aller des autres avant et toi, tu viens à la fin. Et quand on voit qu'on s'est trompé, ça va, tu peux, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est exactement ce qui s'est passé en Eretz, le vendredi matin, jeudi après-midi, vendredi matin. Il y en a qui étaient des grands fanfaronneurs, de jamais faire un gouvernement avec la partie adversaire. Il y en a qui fanfaraient pas tellement fort. Et ceux qui fanfaraient le plus fort, ils sont maintenant restés bloqués, ils sont maintenant dehors, ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils étaient les premiers d'aller à la guerre. Pendant des mois et des mois, ils ont crié, on ne va jamais s'asseoir avec le type en face. Et maintenant, que ça ne marche pas comme ça, on est obligé de s'asseoir un type en face. Ils ont du mal à revenir. C'est exactement ce qu'ils ont dit ici, les gens d'Yerushalayim. Quand il y a une guerre, ne crie pas le plus fort. Parce que tu auras du mal, après tu seras les derniers à rentrer après dans l'ordre. Sois les derniers. Peut-être c'est ça le pshat, ou peut-être il y a un autre pshat. Ne va pas le premier en guerre, ou peut-être c'est pas la guerre contre les gens, peut-être ça c'est la guerre contre soi-même. Un homme qui fait la guerre contre lui-même, ça veut dire quoi? Un homme il dit, ça y est, il faut que je fasse un régime, et voilà, je vais perdre 30 kilos les prochains 2 mois, et il va très fort. Quand on va très très fort, après on a du mal à revenir, il faut pas être le premier. Faut pas aller trop fort. Faut pas aller trop fort. Même contre soi-même. On fait la guerre. La guerre, il faut toujours faire le minimum. Fais la guerre le minimum. ce que tu oublies. Comme ça, tu peux arrêter facilement. Des fois, il faut arrêter la guerre. Tu fais la guerre, il faut être capable d'arrêter facilement, pas que tu seras bloqué par tes idées. Alors, on va continuer. Ça, on avait déjà abordé. On avait déjà vu ça. Rabbi Akiva aussi, il a dit la même chose, que c'est mieux vaut de faire pas Souda Shlishit, rater le Souda Shlishit, de faire que deux repas Shabbat, comme on fait pendant la semaine deux repas, et pas être obligé de mendier. Ça, on a déjà vu aussi dans un autre contexte. Et soit Mishtadel de s'associer avec quelqu'un que le moment lui sourit. Le moment lui sourit, il a de la chance. C'est bien d'être associé avec quelqu'un qui a de la chance et la bracha. Comme ça, la mazal de l'autre, elle se met aussi sur les associés. Amar Rabbi Yochanan, shlosha dvarim, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, mishum anshei Yerushalayim. Trois choses. Il a dit Rabbi Yeshua ben Levi au nom de anshei Yerushalayim. Encore une fois, anshei Yerushalayim, c'est très anonyme ça. Les gens de Yerushalayim, Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua ben Levi est un élève de qui? D'abord de son père Levi. Levi qui était le copain de Rabbi. Et Rabbi Yeshua ben Levi, il était la génération de Rabbi Yochanan. Au nom de Anshei Yerushalayim, on ne veut pas dire leur nom. Peut-être quelque part autre dans le chasse, il y a une définition qui c'est Anshei Yerushalayim. Alors, Al Tarbe Beginot, ne multiplie pas les affaires dans les jardins. Jardin, c'est dire en public. Ne t'expose pas tes comportements, tes affaires, ta vie privée à l'extérieur. C'est-à-dire, un homme, il veut prendre une douche. Il peut prendre la douche chez lui dans la maison. Il peut prendre la douche dans le jardin. Eh bien, fais la douche à la maison. Ne fais pas dans le jardin. Le jardin, c'est... Il peut être vu. Il peut y avoir un immeuble en face. Quelqu'un qui peut être sur le toit. Il peut te voir. Tout ce qui est exposé à l'extérieur, c'est toujours un chachache que le malin, il essaye de tourner vers le mal. Sois discret. Les choses, on fait discret. Même les mitzvot qu'on fait, pas besoin de fanfarer. Fais les choses discrètement. Al tarbe beganot, ne multiplie pas. Pourquoi il dit pas ne multiplie pas? Il n'a pas dit jamais de faire quelque chose en public. Il y a des choses qu'on est obligé. Il y a des choses qu'on ne peut pas le faire quand on reste en privé, enfermé. On est obligé des fois, oui, se mettre devant et faire en public, oui, mais altarbé, tant que tu n'es pas obligé, ne multiplie pas. Dans le monde, il y a, comment ça s'appelle, les people, comment ça s'appelle, les journaux, qui des photos, tout le monde, l'entrée, tout, extériorisé, la vie privée est extériorisée.
Les people.
Les people. Et ils n'attirent que des ennuis avec ça, les lachonara et les critiques et de toute la vie privée des stars, des cinémas, des machins ou des politiques étalées dans les journaux. C'est moche pour eux, c'est moche pour leur famille, c'est moche pour tout le monde. Et eux, on dirait qu'ils kiffent ça. On dirait qu'ils ont un plaisir, ils croient vraiment, les gens, ils sont... Mais Shuga, un monde fou. Il n'y a pas de bracha dans ça, ça apporte que du mal. Alors, Altarbe Beganot, ne multiplie pas les affaires dans les jardins. Mishuma, c'est Shehaya. Voilà, on a bien une histoire qui est arrivée. Qu'est-ce que c'est Maasé Shehaya? Il y avait un drame, une catastrophe mondiale. C'est marqué que Batsheva, elle était allée au mikve. Elle avait dans son jardin un mikve. Jusqu'à ici, il n'y a rien de mal. Mais il y avait un voisin en face. Et le voisin, il s'appelait le roi David. Il habitait pas loin de la maison de David. Et David Amelech, il était allé sur le toit. Il était allé sur le toit. Et le soleil se couchait. Donc, c'était déjà 80% d'obscurité. Et Madame Batsheva, elle est sortie. Il est allé au mikvé. Et David Amelech, paf, il a vu. C'est la première fois. La première fois qu'il a vu, il a marqué qu'il y avait une vitre qui se cassait. Il y avait une vitre entre le toit du palais de David et le jardin, et cette vitre, elle s'est cassée pile au moment. Pile au moment, et David Emelech, il a vu de loin, et il a demandé qui c'est cette femme. On lui a dit, c'est Bathsheba. Et il a demandé, dit Bathsheba, vient, et toute l'histoire, tout le balagan dans la Tanakh avec David Emelech, et après toutes les conséquences dramatiques. En vérité, si elle aurait fait le mikvé à l'intérieur, ça n'aurait pas arrivé. Une erreur que Bathsheba elle a fait, c'était la nuit, pratiquement la nuit. Personne ne voyait. Il y avait des murs, des grands murs. Mais le palais présidentiel, le palais royal était encore un peu plus haut. Et puis la vitre se cassait pile, pile vraiment. Et paf, et la photo, elle était faite. C'est pour nous apprendre de Moussa Raskel, ne fais pas tes affaires privées, n'étale pas ta vie publique. Bitra, ça c'est le premier conseil qu'ils ont donné. Bitra Bogra, Shacher Avdach Vetenla. Si ta fille elle est devenue adulte, sois même Shacher ton esclave et tu la donnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il a une fille. Elle commence à vieillir. Elle a, bon, Bogra, à l'époque, c'est 13 ans, mais c'est chaque génération d'après. En tout cas, elle commence à vieillir. Alors, nous, marie-la. Oui, mais il faut, je veux bien marier, mais il faut un mari qui a sa hauteur. Mais on ne trouve pas. Alors, baisse un peu. Mais non, c'est difficile. Tu réfléchis, tu réfléchis. À la fin, même cela, ça ne marche pas. À la fin, il y a une possibilité. C'est une expression. Il y a une possibilité. Tu as un esclave. Tu sais, tu peux libérer ton esclave. Et l'esclave, il sera bien content de se marier avec ta fille. Oui, non, mais avec un esclave, c'est dégradant, c'est pas même couche sociale. Eh bien, il te dit, Bitra Bogra, si ta fille devient adulte, Shachir Avdar, libère ton esclave, Betella, donne la fille à ce esclave, Aïkar qu'elle sera casée. C'est-à-dire qu'ici, les Anshei Yerushalayim, ils conseillent de ne pas vouloir à tout prix chercher le chidouch le meilleur quand la fille commence à agir, c'est pas bon. Pas savoir, elle va faire des bêtises, demain elle te ramène un enfant d'un monsieur anonyme. Qu'est-ce que tu sais? Quelle bêtise peut arriver à une fille qui n'est pas mariée? Alors, vas-y, alors prends un chidouch qui n'est pas le plus haut degré, c'est pas grave. C'est pas grave. Beaucoup de gens, ils font cette bêtise. Et après, c'est difficile. Après, il regrette. Il a une fille de 40 ans. Il n'est pas marié. Aïe, aïe, aïe. Mais ce monsieur de 45 ans, mais un monsieur comme ça, j'aurais pu l'avoir quand elle avait 22 ans. Et oui, il fallait la prendre à 22 ans, ce chidour. Oui, non, mais je voulais meilleur. Mais c'est comme on dit, des fois, le meilleur est l'ennemi du bien. On veut du bien, mais on veut meilleur. Meilleur, encore meilleur. C'est l'ennemi du bien. À la fin, tu auras moins bien. Ah, il faut avoir du séchel. Il faut avoir du séchel. Il faut avoir du séchel. Il ne faut pas laisser les enfants trop longtemps. C'est pas bon. Après, ça se complique. Plus que c'est, comme il disait un rave connu. Il a dit, il a fait beaucoup de chidrim dans la vie. Il a dit, quand elle arrive au Lamed, ça devient difficile. Lamed, les longues trentaines. Quand ils arrivent au Lamed, alors là c'est plus que plus on était plus qu'on vieillit. Alors, et fais attention sur ta femme de son premier mari. Bon, on parle ici de quelqu'un qui se mariait, qu'on irait avec, il se mariait avec une femme divorcée. Elle avait un mari. Bon, ça tourne par an. Elle est divorcée. On se marie qu'une divorcée. Alors, les derniers hommes que je dois craindre qu'elle va tourner, c'est son ex. Eh ben non, veveim, zahir beishtacha. Et attention sur ta femme, mais harishon de son premier mari, de son ex. Fais attention. Ah, ex, c'est sûr qu'elle a craché sur lui. Ils se sont crachés, ils se sont fâchés, ils ont divorcé. Oui, ils ont divorcé, mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui divorcent, et après, les sentiments, on espère, pendant qu'on divorce, on espère de trouver le meilleur, et après, ils se marient avec toi, et croient d'avoir trouvé meilleur, et après, toute compte faite, elle te compare, toi, à son ex, Elle s'est dit, mais en vérité, mon ex, il était encore mieux. Mais maintenant, je suis coincé avec les deuxièmes. Après, les sentiments avec son ex peuvent revenir. Et là, commence à rasser Shalom et Dram. Et attention que ta femme coupe vraiment les ponts avec son ex. Maïtama, pourquoi? Frise d'Amar Mishum Erva, de peur qu'il va peut-être la séduire. Ça peut revenir à tel point, il peut devenir infidèle. Afkan Amar Mishum Mammon, à cause de l'argent. Elle peut prendre ton argent pour donner à son ex. Il peut y avoir soit par sympathie, soit par pression. Elle peut avoir encore une attache commerciale ou une autre raison. Elle est attachée à son ex-mari. Celui-là, il peut manipuler sa ex-femme pour dire, écoutez, il faut que tu me donnes de l'argent, sinon je raconte des choses sur toi, toutes sortes de pressions, de menaces. Et elle peut piquer pas sur ton argent pour donner à son ex. Fais gaffe. Ne sois pas naïf, ne te fais pas voir. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Shelosha minochale olam haba. Toi, hérite le monde futur. C'est-à-dire quoi? Hérite, trois hérite le monde futur. Et quand l'Israël y est, tous les Juifs, ils ont une part dans le monde futur. C'est-à-dire quoi? Trois, il hérite. C'est-à-dire, il est dans une sgoula. Il y a, on trouve ça dans tous les chasses, trois hommes qui sont comme ça et trois choses ou quatre choses, quatre conseils. Il y en a 1 000 milliards de conseils, il y a 1 000 milliards de gens. Il veut donner une idée, il veut transmettre une idée, je te donne une idée, quelque chose qui facilite pour avoir l'Olam Haba. Elohen Vasi Hador Be'eretz Israël, habité en Eretz Israël. Ça veut dire Rabbi Yochanan, à son époque, le peuple juif était divisé. Une partie habitée en Eretz Israël et une partie habitée à Chutz La'aretz. Ou à Chutz La'aretz, une grande partie à Bavel. Bon, à Bavel, il y avait beaucoup de Tamid Chachamim. Mais les Chachamim, la majorité, se sont partagés ou à Eretz Israël ou Babylonie. Après, il y a des Juifs en Turquie, il y avait des Juifs à Rome. Il y avait des Juifs en Libye, évidemment. Pendant le Khorban du Beth Amikdash, il y avait 220 000 Juifs qui étaient tués en Libye. Même à Chypre, dans le Khorban, il y avait 200 000 Juifs qui se sont fait massacrer en Chypre. Il y avait des Juifs dans tout le bassin méditerranéen, mais la Torah, elle était soit en Eretz Israël, soit en Babylonie. Et Rabbi Yochanan, c'était le Rav d'Eretz Israël. Et Rabbi Yochanan dit, « Elohen, Hadar b'Eretz Israël, ceux qui habitent en Eretz Israël. » C'est une sgoula. Il y avait la Torah, Kedusha en Eretz Israël, encore dans son époque. Ça durait jusqu'à quelle époque? Jusqu'à l'année des Talmidim de Rabbi Yochanan. Ils étaient en Eretz Israël jusqu'à quelle année? L'année 300 à peu près. Après, c'était très difficile. Ils sont partis à Babylon plus et plus jusqu'à l'année 351, quand Julien l'apostat est devenu l'empereur de Rome. Et lui, il a renié le christianisme. Constantin, il a refait le christianisme, la religion d'État, l'année 300. Et Julien, l'apostat, il a renié. Il est devenu un ami des Juifs. Il a dit, les Juifs, ils ont raison. Le christianisme ne tourne pas leur rang, tourne pas rang. Et il a demandé à Juifs, vous pouvez revenir en Eretz Israël. Et à cette époque, il y avait Hillel HaShaini, l'arrière-petit-fils de Hillel HaZaken. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vite réuni le Bedin et ils ont fait le calendrier jusqu'à Mashiach vient sur le Kiddush HaChodesh. Ils ont établi le Kiddush HaChodesh parce que pour Kiddush HaChodesh, on ne peut faire qu'en Eretz Israël un Bedin qui a Smicha en Eretz Israël. Eux, ils étaient les derniers Bedin de Smicha en Eretz Israël. Donc, ils n'ont pas accepté ce que Julien, l'apostat, il a dit de revenir. Il savait que c'est des pipeaux. Il a dit, vous pouvez construire le Beth Amikdash. Lui, il savait que c'est rien du tout. C'est Julien Apostat, c'est un cadeau Minashamaim qui durera 2 ans ou 3 ans, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc il a dit, maintenant j'ai la permission, parce que Rav Nachman c'était interdit, Rav Nachman, à l'époque de Rav Nachman c'était interdit, en Eretz Israël c'était un danger de mort, toute cette histoire de Kiddush HaChodesh. Donc lui il a fait le Kiddush HaChodesh jusqu'à Mashiach revient, et après, tout de suite après, Julien Apostat il s'est fait rejeter, ou il est mort, ou je ne sais pas, et c'est devenu encore pire, et là tous les Chachamim d'Eretz Israël sont partis à Babel. Ça, c'était un des grands miracles que tous les restes des Chachamim sont venus à Babel et ils ont fait les Talmud Babli ensemble, les Chachamim d'Eretz Israël et les Chachamim Babel, les derniers, après Babel Rava, à l'époque de Ravashi, tous les Chachamim étaient en Babylonie, les grands Chachamim, les grands centres de Torah, vraiment, et c'était tous en Eretz Israël et toute la Torah d'Eretz Israël à Babel ensemble, ils ont fait les Talmud Babli. En tout cas, ça c'était Rabbi Yochanan était avant. Rabbi Yochanan a vécu quelle année? Je ne me rappelle plus. Rabbi Yochanan devait être dans les années 220 à peu près. 220, je pense, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a vécu longtemps. Mais je ne me rappelle pas quelle année il est né, quelle année il est niftar. Je ne me rappelle plus. Il est un peu plus jeune que Rav Shmuel, de 220, peut-être jusqu'à 250. Abaye et Rava, ils étaient l'année 350. Pendant cette époque, Abaye et Rava, ils étaient en Babylonie pendant que Hillel HaShéni, il a fait le calendrier. Mais Rabbi Yochanan était mistama dans les années 220, 250, quelque chose comme ça. À l'époque, il est dit, c'est un Sgoula d'habiter en Eretz Israël, Adar Eretz Israël. Et la deuxième Sgoula, Hamagadel Banaf le Talmud Torah, ceux qui va élever ses enfants dans le Talmud Torah. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui élevaient leurs enfants dans le business ou dans la ou dans toute autre chose. L'ego, il m'a amené beaucoup de bon. Il y avait aussi beaucoup de business. Alors, quel est le chidouche? Ça veut dire, dans son époque, aujourd'hui, c'est bien Negadel Banav le Talmud Torah. C'est Menochel Olam Abba. Vahamavdil al Hayayin b'motzei Shabbatot. Et il fait Havdala sur le vin Motzei Shabbat. Paf, qu'est-ce que c'est ça maintenant? Il y en a tellement beaucoup de mitzvot dans la Torah de Raït et de Rabbanan. Pil Havdala sur le vin, c'est tellement important pour qu'il dise ça c'est Menochalei Olam Abba. Ça, c'est une grande segula pour avoir Olam Abba. Quel est le point? Mavdil al Yain, de Motsei Shabbat, Mahi. Ça veut dire quoi, il est Mavdil al Yain? Tous les Juifs, ils font Avdala sur le vin, la majorité des Juifs. C'est-à-dire de Meshaïr, mais qui douche la Avdalte. C'est-à-dire, il est pauvre. Et il a vendredi soir un peu de vin. Il a une bouteille de vin. Il a deux verres de vin. Il aurait bien voulu boire ce vin à l'Echvot Shabbat. Mais le dernier coup, il ne boit pas. Il laisse le dernier coup pour la Havdala. C'est tellement grandiose ce geste pour après, pour s'appeler Nochalei Olam Haba. D'après Wikipédia, Rabbi Yochanan, c'est 180 à 279. Hein? Ouais, ça pourrait être. Qui c'est, monsieur, arrivera Wikipédia? Qui sera Wikipédia, Saint Amitracham, Wikipédia, je ne sais pas, peut-être, ça pourrait être. Peut-être. Rabbi Zegelev, il se casse la tête pour les années. Le plus grand gaon de l'histoire de Amoraim, Tanaim, c'était Rabbi Zegelev, Rabinovitch. Il faut voir qu'est-ce que lui, il dit. C'est lui, le mandat Amar. Alors, on va continuer. Alors, de Meshayem et Kiddush et la Avdaltev, ça veut dire vendredi soir, il se soucie, il restera toujours un bouteille de vin, un verre de vin pour Avdala. C'est tellement grand ce route, Kiddush. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha, Machiz, Alehem, Akadish, Bochou, Bochol, Yom. Sur trois personnes, Dieu publie leur honneur, Olam Abba, Bochol, Yom. Tous les jours, Olam Abba, Dieu, il dit, je suis content de ces trois personnes, trois catégories de personnes. Hachem, il est archi content. Al Ravak, Hadar, Bikrach, Veinochote, un célibataire qui habite dans une grande ville et il ne faute pas. C'est quoi une grande ville, une petite ville? Normalement, dans les grandes villes, il y a plus de possibilités de fauter que dans une petite ville. Parce qu'une petite ville, tout le monde se connaît. Donc, quand quelqu'un, un homme qui commence à tourner un peu, il se fait une petite copine, alors tout le village commence à jaser. Ah là, on a vu, il sort, il rentre, c'est quoi ça? Et là, les gens, ils arrêtent. Et dès que les gens, ils commencent à parler, ça s'arrête. Donc, dans une petite ville, comme c'est, il n'y a pas d'anonymat, donc on est plus protégé de ne pas fauter. Mais dans une grande ville, c'est anonymat. Personne ne connaît tout le monde, personne ne connaît, on peut sortir, on ne sait pas. Il y a tellement beaucoup de monde. Tu vas dans une rue, tu vas dans un appartement, personne ne te connaît là-bas, tu es un inconnu, les trucs sont connus, personne ne t'intéresse à ça. Et là, Hassé Shalom, on peut descendre facilement. Alors, Ravak, un homme, un célibataire, Hadar Bikrach, qui habite dans une grande ville, et une côté, il ne faute pas. Ah, le bon Dieu, il est content. Il est machris, il publie. Regardez, j'ai des gens comme ça dans le monde qui ne fautent pas. Voilà, Ani Hamachzir, Aveda, le Baaleha. Ça veut dire que même à l'époque de Rabbi Yochanan, un ravak Baïr qui ne faute pas, le bon Dieu, il publie. Ça veut dire qu'il y avait des, à l'époque aussi un Yetzerara. Il y a des gens qui disent aujourd'hui un grand Yetzerara, mais autrefois tout était beau. C'est pas vrai, pas tout était si beau, pas tout était si glatte autrefois. Ceux qui voulaient pécher, ils trouvaient à l'époque aussi à pécher. À tel point que dans une grande ville, un célibataire qui ne pêche pas, eh ben le bon Dieu, il le publie. Mais à quoi ça sert de le publier au ciel? Il le publie au ciel ou il le publie sur terre? Shlosha machriz alehen. Dieu crie sur eux de louanges. Mais où au ciel? Et à quoi ça sert qu'il le publie au ciel? Qu'est-ce que ça change s'il le publie au ciel? Ils vont faire quoi, les gens du ciel? Il faut dire qu'il publie sur terre. Il faut qu'il y ait une cruse. Il y a des cruzim là-bas. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Bechol yom vayom, bat kol yotzat mehar choref kol yom vayom, umachrezet v'omeret oylehem lebriot me'el bona shel Torah. Tous les jours, il y a une voix qui sort du Har Sinai. Et elle crie, gare aux hommes de la honte qu'ils font à la Torah, parce qu'on peut étudier la Torah, on n'étudie pas, c'est une honte pour la Torah. Maintenant, cette voix, elle sort du Har Sinai. Bechol yom vayom bat kol, une voix céleste, yotzat ou machrezet, elle crie, mais elle crie où? Elle crie pour que ce sera entendu ou que ce ne sera pas entendu. Si ce n'est pas entendu, ce n'est pas la peine de crier si ce n'est pas entendu. Si la voix crie, qu'en irait qu'elle peut être entendue? C'est-à-dire, les hommes, ils peuvent l'entendre, cette voix. Un homme qui est mitbonen, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Il peut entendre une voix qui crie, vas-y, étudie. La Torah, c'est le plus beau. C'est le cadeau qu'Hachem il a donné. L'homme, il peut entendre cette voix. Donc, si on dit ici qu'Hachem, il le machrise, voilà, j'ai un célibataire dans une grande ville, et cet homme, il ne faute pas qu'en irait, ce cri est aussi entendu sur terre. Qui l'entendra? Peut-être la personne lui-même qui ne faute pas. Il sent que le bon Dieu il est content de lui. Ou peut-être c'est d'autres personnes. Et d'autres personnes, ils remarquent, ce jeune homme-là, il n'est pas marié, il n'a pas trouvé. Et quand même, il se comporte bien. Il est propre, celui-là. Les gens, ils le savent, il est propre. Il y a une voix du ciel qui sort, elle crie. Et sans doute, il y a des gens qui captent ça. Alors, et après, et un pauvre qui rend un objet perdu à son patron. Ça veut dire quoi? Un homme, il marche dans la rue et il trouve une aveda, en conséquence, il trouve 1000 euros. Alors, si c'est un riche qui trouve le 1000 euros et le rend à son patron, un porte-monnaie, voilà, c'est marqué dessus, Abraham Cohen, David Cohen. Et ceux qui trouvent, il est riche, il rend. D'accord, il fait une mitzvah, c'est joli, c'est bien, c'est correct, mais bon. Ce n'est pas phénoménal. Mais si c'est un pauvre, que lui-même, il crève la dalle, maintenant il trouve 1000 euros à rendre, ça c'est extraordinaire. Même qu'un pauvre il reste honnête, il est mekayem, la mitzvah de Shem Taveda, ça c'est un grand bonhomme. Eh bien, bon Dieu, il crie sur ça, cet homme, il est honnête. Cet homme, il est honnête, c'est grand, un pauvre qui reste honnête. Va la shir, ma'aser perotav, un riche qui prélève le ma'aser de ses fruits, betzina en cachette. Ça veut dire quoi? Un pauvre, il a quoi? Il a 10 pommes. Il doit donner une pomme à un pauvre. Pas un pauvre, un Lévi. D'accord, il donne une pomme, mais le riche, il a 10 000 pommes. Il doit donner 1000 pommes. Donc j'aurais pu croire, 1000 pommes, il doit donner. C'est difficile, c'est des grandes quantités de maaser. Le riche, il dit, je donne déjà beaucoup de staka, pas besoin de donner pile 10%, on va donner 9-8%, on va gratter un petit peu. Non, le maaser, même si c'est en cachette. Si on publie, qu'on fait un gala, le riche, il dit, je donne 5000 euros, je dis 1000 euros, c'est très bien, mais on a quand même un peu un profit. On profite quand même un peu, mais si c'est en cachette et personne n'est au courant, faire des mitzvot en cachette. Il y a des riches qui donnent au public parce que ça encourage les gens. C'est vrai, c'est marqué une mitzvah de donner en public parce que ça encourage les autres donateurs. Mais aussi donner en cachette. Et ce qu'on donne en cachette, c'est encore une plus grande mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les Shem Shamaïm. Vraiment les Shem Shamaïm. Des fois, on entend des choses, c'est phénoménal. Des fois, tu entends des gens qui disent, voilà, moi, j'étais dans une situation tragique. À la fin, je suis sorti. Quelqu'un est venu, il m'a aidé. Monsieur Plony, Plony, j'ai demandé, il m'a aidé. Quoi? Monsieur Plony, il t'a donné une tellement grande somme. Pourquoi? C'est ta famille? Non. C'est ton voisin? Non. Et pourquoi il t'a donné? Comme ça. Il m'a donné, je lui dis, voilà, voilà. Il m'a donné. Et tu entends des choses, jamais on a entendu des choses comme ça. Souvent, c'est après 120 ans qu'on entend les choses. Après 120 ans, les langues se délient et on entend des choses sur des gens. Et si moi, j'aurais su que celui-là, il fait des tels mitzvot en cachette. Ça, il a fait. Oh, aïe, aïe, aïe. J'ai reçu ça, j'aurais eu d'avoir beaucoup plus de respect avec ce monsieur. On ne savait pas. Mais c'est sans route. De faire des tzedaka, betzina. Alors, Rav Safra Rava Kadar Bekrachave. Rav Safra était un Ravak, il était un célibataire. Kadar Bekrachave, il habitait dans une grande ville. Tani, Tana Kame de Rava Rav Safra. Donc, il y avait Rava et Rav Safra, c'était des copains. Rava était marié, Rav Safra n'était pas marié. Pourquoi il n'était pas marié, je ne sais pas. Bon. Il était malade, oui, mais bon. C'est comme ça. Alors, les deux, ils étudient ensemble. Et le Tan, c'est-à-dire ceux qui apportaient les Braïtot, il a porté ce Mahamar. Et il a dit, voilà, que des jours au public, au ciel, pour un célibataire qui ne faute pas. Tzahavu panav draf safra. Il est devenu rayonnant son visage. Il est content de moi tous les jours. Il parle bien de moi. Amalo Rava. Rava, il a dit, lave que gonmar. Non, 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 on ne parle pas de vous, maître. Ce n'est pas vous le grand tzaddik là. Elle que gon rabchanin et rabochaya. Ce Mahamar, on parle des rabchanin et rabochaya. T'avais ushkapi. Et ils étaient des fabricants des chaussures. Bah, arad d'Israël, en Eretz Israël. Bah, veyatvi, veshuk et des onot. Ils étaient assis au marché où il y avait des femmes pécheresses. Bah, vedelhu mesane. Et ils fabriquaient, réparaient les chaussures. Pour ces femmes, va aider le hou in hou mistake le hou in le middle nena yolistakou le behou. Et ces femmes regardaient sur ces rabbanim parce qu'ils étaient beaux, ces rabbanim. Et les rabbanim, ils ne levaient pas la voix. Jamais ils ont vu une femme. Ils ont baissé les yeux, ils ont pris les chaussures, ils réparaient les chaussures, ils rendaient, prenaient l'argent et ils ne voyaient pas qui est devant eux. Ça, c'est les tzadikim. Vraiment, ils sont proches du péché. Mumtai hou hachi. Et les gens en Eretz Israël, quand ils faisaient une shvoa, quand on fait une shvoa, souvent, soit qu'on dit le nom d'Hachem, ils jurent au nom de Dieu. Jure au nom de Dieu, ça c'est le top du top. On peut aussi jurer au nom d'un chacham. Je jure en tête de Moshe Rabbeinu, ça aussi, si c'est un shvoa de shav, c'est grave. Mais c'est moins grave que jurer sur HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, c'est le plus grand. Auquel cas, ils jurent, je te jure, en Égypte, on jurait sur la vie de Paro. Haï, haï paro, im yeitzou mise, comme ça Yosef. Alors en Eretz Israël, les gens, quand ils juraient, ils prenaient le top du top, c'est Bechayeron Rabbanan Kadish de Eretz Israël. Nous jurons sur la vie de nos Rabbanim Kedushim qui se trouvent en Eretz Israël, qui est Rabbi Chia Rabchanin et Rabboshaya. Quand les gens, ils voulaient promettre à l'autre, vraiment, je te dis, je te jure que je suis sérieux ce que je dis, je rigole pas, je vais accomplir ce que je dis. Je te jure au nom du Hazonish, je te jure au nom de Baal Shem Tov, je te jure au nom de Rab Chanin et de Rab Oshaya. Alors là,
ils étaient célibataires aussi?
Non, non, eux étaient. Ah oui, oui, ah. Ah, ça, je ne sais pas. Si Rab Chanin et Rab Oshaya étaient célibataires, je ne sais pas. En tout cas, ils se sont mis dans un archi danger. Et pourquoi ils avaient ce métier? Ils ne trouvaient pas d'autre métier. C'est-à-dire, quand ils étaient petits, leur père leur a appris un métier d'être fabriquer des chaussures. Et après, ce métier, fabriquer et réparer des chaussures, ce qui vient. Et pourquoi ils étaient pile à ce marché? À ce marché, mais où? En Eretz Israël, il y avait un marché comme ça, il y avait des femmes, des endroits où des femmes pas bien. Ça existait à l'époque aussi. Elles réparaient leurs chaussures et la rabbanim, ils étaient les réparateurs de chaussures et ils ne regardaient pas. Mais pourquoi ils ne trouvaient pas d'autres clients?
C'est comme les rabbanim qui vont dans les boîtes de nuit.
Et, mais il ne faut pas qu'ils regardent, hein? Il faut qu'ils baissent la tête et qu'ils ne regardent pas. Rabbanim qui vont dans les boîtes de nuit, je ne sais pas, peut-être ça existe, mais bon. Ah, mais...
Ce que tu parles, Serge, c'est le Rav Grossman en Israël qui est marzir bitchouva les jeunes qui sont dans les boîtes de nuit. Du coup, il se met à danser avec eux dans la... et il est marzir otam bitchouva. Mais c'est pas, c'est séparé, c'est sûr que c'est pas.
Je ne sais pas s'ils dansent dans les boîtes de nuit, ça je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. En tout cas, mais pourquoi ils sont allés là-bas? Ils n'avaient pas des autres clients pour gagner leur vie. Eux, ils faisaient pour gagner leur vie, ils étaient pauvres. Et pourquoi ils n'étaient pas payés par une communauté? Ils étaient, aucune communauté pour les Rabbi Chanin et Rabbi Shaya, les plus grands Chachmé Israël. Rabbi Shaya, c'est les grands copains de Rebbe, c'est eux qui faisaient la collection de tous les Braïtot. Eux, ils ne voulaient pas prendre de l'argent pour leur Torah, ils préféraient de gagner leur vie avec les chaussures et ils gagnaient ici l'argent.
Ils voulaient des rendez-vous Tchouba, ces gens-là.
Mais non. Des rendez-vous Tchouba, mais non. C'est pas ça. Ils voulaient gagner l'argent, ils voulaient nourrir leur famille, c'est tout. Et ils sont allés dans ce truc, mais ils faisaient attention. Ils gagnaient la vie dans des endroits très dangereux, mais ils faisaient archi attention, ils n'ont pas fauté. C'est ça la chokhma, c'est ça la grandeur. Alors, on va continuer. Shlosha HaKadosh Baruch Hu Rabban. Trois, HaKadosh Baruch Hu Em. Mi She'eino Ko'es. Quelqu'un qui ne se met pas en colère. Dieu, il aime ceux qui ne se mettent pas en colère. Il aime ça. Pourquoi? Parce que la colère fait perdre le sechel. Et donc, ceux qui partent en colère, eh ben, ils ne perdent pas son sechel. Mi she'eino ko'es, ou mi she'eino mishtaker, et ceux qui ne se saoulent pas. Un homme qui ne se saoule pas, bon, la majorité des gens ne se saoulent pas. C'est pas, c'est quoi la chidouche, mi she'eino mishtaker, et pourquoi tu veux qu'on se saoule? Combien de gens ils se saoulent dans la vie? C'est marginal. C'est quoi? Ah, tu peux dire la majorité des gens, ils sont colériques. Ça, tu peux dire. Alors, un homme qui ne se met pas en colère, c'est plutôt un chidouche. Alors, Hachem, il aime. Mais ceux qui ne se saoulent pas, quel est le chidouche? Je ne vois pas quel est le chidouche. Je ne vois pas. Alors, normalement, il n'est pas mistaker. Ceux qui se saoulent, c'est qu'il a un grave problème et qu'il n'arrive pas à résoudre. Je ne sais pas. Et celui-là qui n'est pas têtu, qui n'est pas makpid al-midotav, c'est-à-dire que si on lui touche son honneur, ou il est élastique. Il sait pardonner aux gens les erreurs qu'on fait vis-à-vis d'eux. Ils savent pardonner. Il n'est pas ma'amid al-midotav. Il n'est pas makpid sur son kavod. Shelosha kadosh baruch hu son an. Il y a trois que Hashem ne supporte pas, il les déteste. Amadaber echad beve echad belev. Quelqu'un qui parle dans la bouche quelque chose qu'il ne pense pas dans le cœur. C'est-à-dire un faux jeton, un rouleur. Il parle des paroles et dans le cœur, il pense le contraire. Ça, c'est echad beber echad bepe. C'est-à-dire toutes sortes d'abuser les gens. Abuser les gens. Et pourquoi les gens ils font ça? Pour un certain profit. Ils veulent profiter quelque chose. Ils abusent des gens. Ils se présentent d'une manière. En vérité, ils ont d'autres intentions. Hachem n'aime pas ce truc-là. Il n'aime pas ça. On dit que les frères de Yosef, ils ne pouvaient pas parler avec lui en paix. Dès que les frères ils ont rencontré Yosef, ils ont fait une tête. Et on dit que c'était une ma'ala de leur. Ils n'ont pas transgressé l'otis netechicha bilvavecha. C'est-à-dire, s'ils auraient été des faux jetons, ils auraient souri à Yosef pour mettre bien à l'aise Yosef. Et après, Yosef leur fait confiance, il va aller les visiter. Et là, il les met dans le trou et il les jette au serpent. Ça, c'est vraiment malin. Mais les frères, ils ont dit ça, on ne fait pas. On ne supporte pas ce type. On lui dit, on ne te supporte pas. Oui, tu sais, Yosef, on ne te supporte pas. D'abord le shalom. Quand Yosef il est venu lui dire shalom, on a dit on ne te dit pas shalom. Tu es un kafteur, tu cours chez papa, toujours parler mal de nous, tu es insupportable. Et là, Yosef, il sait, ah, mes frères ne me supportent pas. Donc il peut se méfier. On t'a mis en, on t'a averti. Il ne faut pas venir seul chez nous. On peut te faire du mal. On t'avertit qu'on ne te supporte pas. Donc, il y a une certaine honnêteté dedans. Comme ça dit le Gemara. Il y a une honnêteté dedans. Quand un homme, il crache, il ne t'aime pas. Normalement, on aime plutôt que quelqu'un nous sourit, mais quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qu'il pense, le mal qu'il pense de nous, on n'aime pas ça. Mais en vérité, c'est mieux. Il est honnête. Il me dit, je ne vous supporte pas. Vous, vous êtes un type que je ne supporte pas. Voilà. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis en face. Voilà. Comme ça, vous êtes averti. N'attendez pas que moi, je vais vous tirer de l'affaire quand vous êtes dans le trou. N'attendez pas. Au moins, il est honnête. Alors, המדבר אחד בפה ואחד בלב, והיודע עדות בחברו, ואינו מעיד לו. אינום כי כאן אין תימניה של סנקופה, אינו ופה תימניה. Ça veut dire quoi? Je peux dire quelque chose de bien sur quelqu'un, de le tirer de l'affaire, et je me tais. Ça veut dire quoi?
Olé Beyored.
Ouais, ça veut dire que si je vois Rouven, il a cogné la voiture de Shimon. Et Shimon n'était pas au courant, la voiture de Shimon est garée. Rouven, il a dégaré, il lui a fait un dégât de 10 000 euros. Et Rouven, il a fait un dégât de 1 000 euros sur Shimon, et Rouven, il veut se tirer. Et Shimon, il arrive le matin, sa voiture est cognée. Mais qui est-ce qui m'a fait ça? Il va à la choule. Est-ce que quelqu'un, il a vu? Si quelqu'un, il m'a cogné, qui est-ce qui m'a cogné la voiture? Et moi, j'ai vu. Si moi et mon copain, on va les témoigner au Bedin, on va dire oui, nous avons vu que c'était M. Rouven. Et bien, Rouven, il payera. Et si je me tais, il ne payera pas. Alors, il va se taire. Et bien, ce n'est pas bon. Ayodé, Aïdout, Bechabiro, ceux qui connaissent un témoignage sur son copain, ben, nous méidlo, il ne témoigne pas pour son bien. Là, le professeur à Haute à Marseille, il dit, je raisonne comme ça. Moi, je sais que mon médicament, ça marche. Donc, moi, je vous dis, il faut le prendre. Comme ça, lui, il est Tohen. Si c'est vrai, il a raison. Il dit qu'il faut acheter ce que je fais, ça va guérir. Dans l'hypothèse où c'est vrai, il a raison de raisonner comme ça. Alors, Ayodéa, Edut, Bechaviro, Veino, Meidlo. C'est dommage. Vored, Vara, Verba, Bechaviro, ou Meidbo, Yechidi. Et ce qui va, une Dvar, Herba, sur son copain, et il témoigne seul. Alors quoi? Un homme, il a vu qu'un autre, il faute. Il faute avec une femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va au Bedin, il le raconte. Eh bien, ce n'est pas bon. Hachem, il n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Il ne peut pas prouver. Donc, quand un homme, il parle mal sur quelqu'un sans prouver son accusation, alors, c'est Motsi Shemra. Ça veut dire, ça ouvre la porte à toutes les diffamations. Un homme, il dit, moi, je sais que Rouven a volé. Tu peux prouver? Non. Eh bien, je t'accuse par diffamation. C'est un monde de folie. Si chacun il a le droit de parler, chacun y connaît peut-être de la chaleur, vrai ou faux. Alors, si pour le vrai, je peux raconter les faux et les gens ne savent pas si c'est vrai ou faux et le monde se remplit plein de la chaleur. Et on ne peut pas laisser une chose comme ça. Si tu accuses quelqu'un, tu es obligé d'avoir les preuves. Tu peux prouver.
Comment il va savoir qu'il y a un autre témoin qui a vu la même chose que lui? Alors, personne n'ira jamais témoigner sur Herva.
Non, mais moi, j'ai vu qu'il n'y avait personne à côté. Moi, j'ai vu qu'il n'y a personne à côté. Lui, il a vu, il a attrapé dans une situation délicate. Il a vu que monsieur, il a faute. Et il a vu qu'il n'y avait personne à côté. Personne n'est au courant, il n'y a que lui. Maintenant, lui, il le crache. Lui, il va au Bedin, il l'accuse. Et le Bedin, il dit, vous dites vrai ou faux? Oui, je vous dis vrai, mais peut-être c'est faux. Mais je ne vais pas vous mentir. Peut-être vous mentez, oui. L'autre, il dit, c'est faux. Vous dites, c'est vrai. Où est la vérité? Enfin, portez deux témoins. Ah, j'en ai pas deux témoins. Ah, vous n'avez pas deux témoins. Vous ne pouvez pas le prouver. Eh bien, vous la fermez. Eh bien, vous ne parlez pas. On n'a pas le droit d'accuser comme ça.
Et alors, quelqu'un qui abîme la voiture de l'autre, il ne faut pas deux témoins pour ça? Quelqu'un qui sait un témoignage et qui se tait, pourquoi il ne faut pas aussi deux témoins?
C'est pour la voiture, il y a un din de Edechat Chayav Shvua. Un témoin qui vient témoigner, que je témoigne que lui, il a abîmé. Il y a un halakha qu'il doit jurer que ce n'est pas lui, sinon il est obligé de payer. Mais il doit jurer seulement si le Nit'an, aussi il est Tohen Ta'anat Bari. Si Shimon, il a vu que Rouven, il a abîmé sa voiture, Et Shimon, il dit, témoigne pour moi. Il a le droit de témoigner seul parce qu'il est marié à l'autre. Et si l'autre ne veut pas jurer, il sera obligé de payer. Donc, son témoignage, elle vaut quelque chose. Mais si Shimon ne sait rien, alors le témoin seul ne peut pas marier Shvoa. Donc, ça ne sert à rien. Le Shimon, Rouven, il peut dire, moi, je n'ai pas abîmé. Je ne jure pas parce que l'autre, il ne dit pas que c'était moi. Il n'y a pas Tahana contre moi. Il n'y a que le témoin. Témoin seul, je ne suis pas obligé de jurer. Ni je jure, ni je vous paye. Laissez-moi tranquille. Mais on a sali son nom. Son nom, il est sali sans avoir apporté la preuve. On peut pas salir quelqu'un sans apporter la preuve. Il y a des Touvia Chata, comme l'histoire que Touvia qui avait fauté. Il y avait un monsieur qui s'appelait Touvia. Il a fauté avec une femme. Vata Zigoud est venu à monsieur Zigoud, le Choudei seul. Va Sidbei Kamed Rav Papa. Il a témoigné de mon Rav Papa. Voilà monsieur Zigoud, je suis témoin que monsieur Touvia a fauté. Nakdei le Zigoud. Alors Papa, il a donné des malkout à Zigoud. Il a zigouillé, il a zigoudé et le zigout. Il a donné des coups à zigout. Amorlo, alors M. Zigout, il a dit, attendez, Touvia Chata, le zigout Mingat, c'est Touvia qui faute et c'est zigout qui reçoit les coups. Mais c'est un monde à Verlan, mais ce n'est pas moi qui ai fauté, c'est lui qui a fauté. Vous, pourquoi vous donnez des coups à moi? Amorle In, il a dit, oui, monsieur, vous méritez les coups. Et Kif Karilemake, Loyakum et de Chad Beish. Il ne faut pas qu'il se lève un témoin contre un homme. Un homme n'a pas le droit de se lever seul. Ce n'est pas seulement. Normalement, on a la coutume au Chumash. Lo yakum et dechat be'ish, le chol avon, le chol chatat. Un homme n'a pas le droit de témoigner. Un homme ne peut pas témoigner seul pour les affaires d'accuser quelqu'un. Normalement, on traduit ça en termes de la loi. Un témoin ne suffit pas pour prouver quelque chose. Mais la Gemara nous dit, c'est pas ce mot, l'ouyakoum et dechad be'ish, on ne croit pas le témoignage d'un témoin. Ici, une deuxième lecture, l'ouyakoum, il n'a pas le droit de se lever un edechad contre un homme. Un edechad n'a pas le droit de se lever contre un homme. C'est assourd de parler. Va'at le choudé Asad, et toi, tu étais seul que tu as parlé de lui. Donc, tu fais simplement sortir les mauvais renommés. Donc, tu salis l'autre. Hein? Son preuve, c'est assourd. Donc, tu mérites des coups. Mais imaginez-nous un cas qu'un homme, il a vu quelque chose. Mais il s'imagine, Mistam, il a fait déjà cet avéra d'autres fois aussi. Imaginez-nous, je suis le seul de savoir, mais je m'imagine qu'il y a encore 50 autres, qui connaissent 50 autres morceaux sur ce monsieur. Est-ce que dans ce cas-là, je vais avoir le droit de dire, peut-être si moi j'ai dit, il a fauté, alors un autre, il va dire, moi aussi j'ai vu dans un autre endroit fauté, lui aussi, il y a 50 témoins. Il a fauté. En vérité, je ne fais que dévoiler un secret polichinel. Alors, si je suis sûr que c'est comme ça, si je suis sûr que c'est un secret polichinel, en vérité, il y a plein, on l'a attrapé déjà beaucoup de fois, et après moi, il y en a plein qui vont venir. Dans ce cas-là, peut-être c'est lui permis de venir. Dans ce cas, je ne suis pas Motsi Shemra. Mais ici, en Gemara, on parle d'un homme qui était nickel. Ce monsieur Touvia était nickel. Il n'y avait rien sur lui. Maintenant, Zigout, il dit qu'il a vu une fois fauté. Une fois, c'est une fois, on ne sait pas. Alors, tu n'as pas le droit de parler. Maintenant, un homme qui a une mauvaise renommée, que toute la ville parle de lui, et tout le monde dit, il m'a roulé. Alors maintenant, moi aussi, il m'a roulé. Je vais en bed, il dit, va, et je vais expliquer exactement comment il a roulé. Il dit, mais je suis seul. J'ai dit, oui, mais demandez un peu le rumeur publique. Monsieur le rabbin, demandez le rumeur publique. Vous allez recevoir d'autres témoignages bientôt. Peut-être, non, c'est pas c'est lui permis. C'est possible que c'est lui permis. Parce qu'il y a un machloket rabbinatan avec rabbanan. Il y a un machloket tanaïm. S'il y a deux personnes qui témoignent sur deux affaires différentes, et toujours il y a un témoin. Par exemple, Rouven, il dit qu'il m'a volé son... Moi, j'ai vu que lui, il a cassé quelque chose à lui. Et après, une autre fois, il dit sur une autre fois qu'il a cassé à lui, sur une autre affaire. Est-ce que c'est Mitzteref ou c'est pas Mitzteref? Il m'a dit que Tanaïm, il a la chale, il commande Amar. Ed ba echad echad ayom. Et même si c'est pour deux affaires différentes, c'est mitztaref. Donc, si on va dire que c'est assourd de faire, Ça aurait dû être. C'est pas machement de gomar que c'est assourd de faire. C'est-à-dire que si je sais que demain il va venir un autre, quelqu'un me dit, moi aussi je connais une affaire sur une autre affaire. Toi tu te parles ça et moi je parle une autre chose. Alors, ça c'est mistaber que dans ce cas c'est lui permis. Alors, Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, il a dit, Moutar le Sanoto, il a le droit de le détester. Qui? Ce qui a vu seul un autre homme de fauté. Il ne peut le pas porter dans le cœur. Tu es un voyou, je sais que tu es un voyou, je ne t'aime pas. Moutar la Sanoto, il a droit, je te déteste. Si demain tu veux m'aider, tu me donnes mon aide, moi je ne t'aide pas. Tu es un voyou, je ne t'aide pas, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que moi je sais la vérité. Je ne peux pas dire au Bédine. Je ne vais pas au Bédine t'accuser. On va m'accuser d'être un Motsi Shemra. Je n'ai pas de preuves, mais moi je sais la vérité. Toi tu sais aussi la vérité. Le jour que ce type vient chez moi et me dit bonjour, je dis je ne vous dis pas bonjour. Ah bon, vous ne me dites pas bonjour, pourquoi? Mais tu sais que tu es un voyou. Tu sais qu'est-ce que tu as fait? Ah bon, comme ça tu penses de moi? Mais tu sais la vérité, je t'ai vu, je te raconte. Je te dis non, je ne t'aime pas, je ne te dis pas bonjour, monsieur, tu es un voyou. Donc, c'est Moutar la Sanoto, j'ai le droit de le détester, mais je ne peux pas le publier, je ne peux pas le dire à un autre. Vis-à-vis d'un autre, c'est Motsi Shemra. Vis-à-vis de lui, ce n'est pas Motsi Shemra. Ce n'est pas car c'est marqué. Quelle est la preuve qu'il peut le détester? Ce n'est pas, il est marqué. Il tirait Hamor, son Aha, Rovetz Tachat Masao. Quand tu vas, l'âne de ton ennemi, Rovetz, qui a accroupi Tachat Masao sous sa charge, alors il faut aider. Un homme, il se promène dans la rue. Et il voit un âne qui a craqué et qui a coûté le patron de l'âne. Et le type, il dit, aidez-moi, aidez-moi, mon âne, il est par terre, aidez-le, le mettre dessus, mettez debout mon âne et mettez la charge dessus. Alors la Torah nous dit, je suis obligé de le faire. Et la Torah nous dit qu'il dirait, quand tu vas, chamor son acha, l'âne de ton ennemi. Ce type, c'est ton ennemi, quand même, la Torah t'oblige de lui aider quand il est dans une situation difficile. Alors, maïsoné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton ennemi, je le déteste. Pourquoi je le déteste? Il aime sonné nochri, s'il s'agit d'un sonné qui est nochri. Non, c'est pas ça le cas. Quand la Torah nous dit ici sonné, l'oshon sonné Israël, l'oshonné nochri. Et on parle ici d'un sonné Israël. Pas, on parle pas d'un sonné. Donc, un juif qu'on déteste. Et le petit sonné Israël. Maintenant, on mishari et les misne, mais est-ce qu'on a le droit de détester un juif? Il est marqué, tu n'as pas le droit de détester ton frère dans ton cœur. Donc, si tu transgresses et tu détestes, ce n'est pas une raison que tu ne seras pas tour de lui aider. Pourquoi la Torah, elle est obligée de dire, si tu vas à un âne de ton ennemi et craqué, tu es obligé de lui aider. Pourquoi? Parce que si la Torah n'avait pas ajouté le mot ennemi, j'aurais pu m'imaginer que la mitzvah d'aider, c'est seulement si c'est mon ami. Mais si c'est mon ennemi, je ne suis pas obligé de l'aider. Mais pourquoi? Si on parle que je le déteste injustifié, de façon injustifiée, en transgressant l'otisna et techicha bilbavecha, évidemment, le fait que tu fais un avirat de le détester, ça ne te excuse pas de lui aider. Évidemment, il faut lui aider parce que tu n'as qu'à enlever ta sina. Obligé de t'enlever ta sina, n'a pas le droit de détester, et donc tu dois lui aider. Pourquoi la Torah oblige de lui dire, bien que tu le détestes, tu dois quand même m'aider? Alors, elle a dit que ça a aidé. Donc, on parle qu'il y a des témoins, David et Sour, hein? c'est un voyou qui vit avec une femme mariée, et un copine une femme mariée, David et Sour. Hein? Alors là, j'ai le droit de détester. Mais, Kula Almename Miske Sanili, alors tout le monde le déteste. S'il y a des témoins, sont venus au Bédin raconter que ce type, il fait des grandes avérotes, ben, tout le monde peut le détester. Ce n'est pas mon ennemi. La Torah nous dit qu'il dirait « Hamor sona acha », ton ennemi privé. Comme j'ai un secret entre moi et lui, un sina. C'est pas, il n'est pas exclu de la communauté parce qu'il est connu comme pécheur. Il n'y a que moi qui est au courant. Donc, s'il y a deux témoins qui sont au courant, ils ont raconté Bédin, tout le monde va mettre ce type au kherem, tout le monde va s'écarter ce type jusqu'à la fête de Shuva. Alors, ce n'est pas mon ennemi. Alors, Maïsnahai, pourquoi la Torah parle de ton ennemi? Elle l'a fait Gavne. Donc, on parle dans ce cas-là de Chazyebe Yehud Bar Erva. Et lui, il a vu que l'autre, il faut avec une femme. Donc, ici, il y en a un témoin, il est le seul à savoir le secret. Personne n'est au courant, il n'y a que lui qui est au courant que c'est un voyou. Et la Torah nous raconte que normalement, j'ai le droit de le détester, mais quand il est avec un âne sur la route et son âne a craqué, tu es obligé de lui aider. Pourquoi? Parce que quand il est malheureux dans la rue avec son âne, il est dans une situation tragique, malheureux, là, malgré que normalement j'ai le droit, je ne suis pas obligé de dire bonjour. Dans la rue, je ne suis pas obligé de dire bonjour. S'il me demande, donnez-moi, vous avez un euro pour acheter une cigarette, pour acheter un café? Non, je ne vous achète pas de café. Pourquoi pas? Tu ne m'aimes pas? Non, je ne vous aime pas. Vous êtes un voyou, je ne vous aime pas. Je vous donne du café. Maintenant, il dit, mais monsieur, je suis avec un âne dans la rue et si je ne peux pas lever mon âne, je vais rester la nuit. Les bandits vont venir me massacrer. Aidez-moi. Là, je suis obligé. Il dit, Rechamor son achal. Rambam, il dit, parce que ça peut amener un pécor. C'est-à-dire, lointain, c'est un homme qui est dans la rue avec un âne, ce n'est pas un pécor nefesh mamash, mais il pourrait aboutir à un pécor nefesh.
Parce donc, si ce n'est pas un pécor nefesh, il n'y a aucun problème, je ne l'aide pas.
Toi, tu dis maintenant qu'il n'y a aucun pécor nefesh, et le Rambam, il dit qu'un âne dans la rue, c'est lui peut aboutir à un pécor nefesh. Tu es plus racha maintenant que le Rambam?
Non, c'est une question. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de risque de picouar nefesh, un monsieur il me demande 50 euros. Et moi, je suis au courant de cette histoire, je lui donne pas. Même s'il me dit, vous savez, je n'ai pas de quoi manger, machin et tout.
Mais si ce
n'est pas réellement pas... un picouar nefesh.
Il n'a pas quoi manger. Pourquoi chez toi, on vit sans manger, toi? Il non. Dit que je n'ai pas quoi manger.
Il raconte des histoires, c'est un menteur. Je sais que c'est un menteur tout le temps.
Ah, si tu sais que c'est un menteur, oui. Si tu sais que c'est un menteur, c'est oui. Oui, mais... Si tu sais qu'il est un menteur, oui, mais s'il dit je n'ai pas quoi manger, mais peut-être c'est vrai, ou peut-être c'est pas manger, peut-être c'est un médicament, ou peut-être c'est pour acheter un manteau en hiver. Si, peut y avoir, il est obligé d'aider. Alors, il y a une mitzvah de le détester. Je n'ai marre, car c'est marqué Yirat Hashem. Sinatra, les gens qui craignent Dieu, ils détestent le mal. Alors, Amaravach brei de Rava le Ravashi. Alaravach le fils de Rava, il dit Ravashi. Mahu le membre lei le Rabbe le Misnaya. Est-ce que l'élève il a raconté à son maître pour que le maître éloigne? C'est-à-dire, il y a ici un élève, il a un maître. Maintenant, l'élève il a vu un homme fauté. Et cet homme-là, il est le seul. Il a vu que cet homme-là, il faute gravement. Et il ne peut pas dire au Bédine, parce que le Bédine ne croit pas. Mais il veut le raconter à son maître. Sachez, maître, que lui, c'est un voyou. D'où tu sais, voilà, c'est ça que j'ai vu. Et pourquoi il veut raconter à le maître? Pour que le maître se méfie de lui. Quand le maître, il va savoir que c'est un voyou, il va se méfier. C'est bien de se méfier des voyous. Alors, est-ce qu'il a le droit de le raconter au maître? À Marley, alors il a répondu, « Iyada, de mehem le rabbi ke beitrei. » Si l'élève, il sait que le maître, il lui fait une confiance totale, comme s'il avait deux témoins. Si c'est un maître qui sait cet élève-là, il ne raconte pas d'histoire. Ce qu'il raconte, c'est vrai, c'est comme deux témoins. Si l'élève, il joue... Il jouit d'une confiance totale chez le maître, que le maître, il sait qu'il dit la vérité, l'aimelei. Dans ce cas-là, il a le droit de lui raconter, et le maître, il a le droit de le croire. Vi ilo, lo l'aimelei. Mais si le maître, il n'a pas confiance totale en lui, il va l'entendre, mais il va le croire, mais en vérité, le maître n'a pas le droit d'être. L'élève n'a jamais prouvé qu'il est archi honnête. C'est-à-dire, si un élève il a prouvé à son maître toute sa vie qu'il est archi honnête, il n'exagère jamais, il ne se trompe pas. Tout ce qu'il dit, c'est la pure vérité. Et le maître, il est convaincu, ça c'est du solide. Dans ce cas-là, il peut raconter au maître, le maître peut lui croire. Mais si l'élève il n'a rien prouvé au maître, il y a bon des gens qui racontent un peu, on ajoute un peu, on dit un peu vrai, un peu faux. On ajoute un peu pour une raison connue ou inconnue, psychologique ou inconnue. On raconte des histoires. Et le maître, s'il va me faire confiance, il va me croire, il fera un péché d'accepter la shonara. Donc, tu n'as pas le droit de raconter parce que tu vas être marchil, le maître, d'accepter la shonara et tu vas faire tort à cet homme-là. que le maître n'a pas le droit de le croire. Après, le maître, il va éloigner ce monsieur, il va lui faire la tête, et le maître n'a pas le droit de le faire, parce que c'est peut-être, c'est pas sûr ce qu'il dit. Donc, tu n'as pas le droit de raconter au maître. Tanu Rabbanan, les rabbins, ils ont signé. Shlosha Chayehem Enam Chayim. Il y a trois personnes que leur vie n'est pas une vie pour eux. Leur vie n'est pas une vie pour eux. Harachmanim, les gens qui sont trop, ils ont trop pitié. Ils ont trop d'empathie. Ils ont pitié dès qu'ils voient quelqu'un qui souffre. Alors leur cœur, ils sont trop sensibles. Eh bien, leur vie n'est pas une vie, c'est-à-dire c'est une vie difficile. Comme on voit beaucoup de choses dans le monde qui tournent par an, on voit beaucoup de gens souffrir. Et quelqu'un qui est hyper, hyper sensible, et il souffre tout le temps, il est tout le temps triste. Et ce n'est pas bon. Sa vie, ce n'est pas une vie, il est trop stressé. Ça veut dire, même la pitié, il y a une mesure. Il faut avoir pitié, mais il ne faut pas être trop sensible. Sinon, ce n'est pas bon. La vie n'est pas une vie. On ne peut pas bien vivre dans un monde plein de souffrances et on est hypersensible. Ce n'est pas bon. Ratchanim et les colériques, ratchan, ils se mettent tout de suite, ils se chauffent à 300 degrés, ils entendent quelque chose qui l'énerve, il est à 300 degrés. Quelqu'un qui a cette nature que tout de suite il monte, il a un turbo de colère. La vie n'est pas une vie, il va s'énerver à tous les coins de rue, à chaque discussion, il va s'énerver. Et on dit un mot à travers, il est colère. Et lui-même, il va souffrir de ça. Vaninei hada'at. Anine Hadat, c'est les obsessionnels de propreté, ou pas d'affaire de propreté, d'ordre obsessionnel, c'est-à-dire la table doit être rongée. Et si sur la table il y a une saleté, ou il y a quelque chose qui n'est pas pile comme il veut, eh bien ça le rend malade. Il entend un bruit, ça le rend malade. Il y a une souris qui passe, ça le rend malade. Ça s'appelle hypersensible. C'est dans les trois cas, c'est hypersensibilité, obsessionnelle ou de colère ou de pitié, malgré que c'est des bonnes qualités, la pitié. Mais on se fait avoir, les gens qui ont trop pitié, après, on se fait abuser aussi. Il y a des gens qui abusent quand ils savent que lui, là, il est toujours pitié, il n'est pas capable de dire non. On va l'abuser, on va l'abuser, on va le rendre fou. Il y a des gens qui sont gentils de nature. On les rend fous. On pompe de leur dernier argent et leur temps et leur truc. Ils ne peuvent pas dire non. Et eux-mêmes, ils souffrent. Mais il arrive toujours en même temps à la maison. Sa femme dit, pourquoi tu n'es jamais là pour moi? Oui, lui. Ah, pour tout le monde, tu as pitié. Je assure, moi, tu n'as pas pitié. Alors, j'ai pitié de toi aussi. Mais on ne peut pas avoir plus pitié que 24 heures par jour. Et après, on ne dort pas, on ne mange pas. Ce n'est pas bon. Il faut dire, non, je n'ai pas pitié. Fini. Aïe, c'est Ménachamay. Il faut savoir que tout est Ménachama, et même les souffrances des autres, Rahman et l'Islam, il faut avoir pitié, ce qu'on peut aider, mais après, c'est Ménachama et moi aussi. Il y a un autre calcul, Yamidat Rahamim, Rahman et l'Islam. C'est Yamidat Adin, je n'ai pas besoin de me rendre malade. Alors, malgré que c'est marqué Moshe, il s'est rendu malade. Vaïchal, Moshe, tenez le cave. Moshe, il a prié pour les Juifs. Vaïchal, on dit Vaïchal, mais la chône Machala, il s'est rendu malade pour les Juifs. Il a quand même vécu son 20 ans en bonne santé, Moshe. Les derniers jours de sa vie, il était costaud, toujours. Avaïchal Moshe, malgré qu'il s'est rendu malade. Oui, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Il s'est rendu malade pour les Juifs, mais il est resté en bonne santé. Alors, Bama Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il est dit, « Kulhu itnei hubi » tous ces défauts, j'en ai malheureusement. Je suis né comme ça, hypersensible. Rabbi Yosef, il est dit, « Je souffre. » De trop pitié, et trop colérique, et trop obsédé, aniné d'aat, et je suis trop macpide, et je souffre, et ma vie n'est pas une vie, comme ça dit Rabbi Yosef. Et pourquoi il n'est pas parti chez le psy? Il aurait pu partir chez un psy. Il ne pouvait pas changer, c'est incurable ou quoi? Bon, ce sont des qualités qui sont incurables, on peut pas changer ça? Trop pitié, c'est une hypersensibilité. Ça ne se soigne pas. Je ne sais pas.
C'est difficile à soigner. Si on sait que quelqu'un il est dans les besoins et qu'on ne lui répond pas, après on se sent mal. C'est pour ça aussi.
Il faut répondre dur.
C'est compliqué. Après, c'est sûr que c'est trop une demande, mais on veut toujours essayer d'arranger les choses.
Et lui, Rabbi Yosef, il est né comme ça, il a appris ses qualités. Où il est né, c'était inscrit sur le gène de sa... Où il s'est habitué à ça.
Chacun, il a une mitzvah qui chérit plus que les autres en particulier. Après, c'est sûr que après, des fois, peut-être les gens, ils savent, ils peuvent en abuser. Mais je pense que chacun, il a une mitzvah qui fait plus que d'autres et que même lui fait ça plus que toutes les autres mitzvot, quoi, peut-être.
Allô?
Alors, Tano Rabanan.
Allô?
Qui est-ce qui parle?
C'est Monsieur Grunberg.
Oui, je vous écoute, oui. Je ne vous vois pas. Comment ça se fait que je ne vous vois pas? Bon, je ne vous vois pas. Alors, je vous écoute, d'accord. Alors?
Oui, il y a le Rambam, il développe dans Shmoneh Prakim comment arranger les midot. C'est pas par ce biais-là qu'on peut arranger ces midot-là?
Et qu'est-ce qu'il dit, le Rambam de Shmoneh Prakim, comment arranger? De marcher doucement, comment?
Quelqu'un qui est radin, il va donner beaucoup de tzedaka. Quelqu'un qui en donne trop, il va devenir un peu radin. Il faut équilibrer les midot.
Oui. Alors maintenant, quelqu'un qui est hypersensible et de pitié, vous allez les guérir comment, docteur?
Il essaye d'avoir moins de pitié, d'être plus cruel.
Être plus cruel.
Il tue des fourmis?
Ou des chats. On raconte ça sur des... On raconte sur des chats. Tuer des chats. Mais Rabbi Yosef, il était aveugle, il ne pouvait pas tuer des chats. Rabbi Yosef, en plus, il était aveugle avec tous ces trucs-là, en plus. Alors, on va continuer. Tano Rabbanan, Shlosha Sonim Ze et Ze. Il y en a trois qui détestent un l'autre. Elohen, Haklavim, les chiens. Les chiens, entre eux, ils ont une animosité. Tu as déjà vu ça? Il est là ici, docteur Eric. Hé, hey, Eric, tu n'es pas là? Et on t'a besoin en urgence. Il n'est pas là, Eric. Les chiens, il y a une animosité entre eux.
Oui, dès qu'un chien il voit un autre, il aboie tout de suite, même s'il ne le connaît pas.
Oui, il aboie ou il court derrière?
Les deux, ils veulent se rencontrer.
Ils veulent s'amuser. Non, ils s'amusent beaucoup, non?
Non, des fois, ils veulent le frapper.
Ouais.
Ben oui.
Vous avez déjà vu des chiens qui se frappent?
Ben, ça arrive souvent. Hein. Quand on voit dans la rue un chien qui croise un autre, il veut lui courir après, toujours.
Et alors, la madame dit, viens, viens, viens chez moi. Hein?
Voilà.
Alors, Haklavim, les chiens. Vahan, il faut éteindre. Il y en a un qui a oublié de fermer. Alors, Vatarnegolim, les coqs. Les coqs, c'est la jalousie parce que chacun il veut la poule. Sont jaloux. L'autre, il veut prendre la poule. Moi, je vais prendre la poule. Donc, c'est une animosité qui est basée sur le principe de la rivalité. C'est une rivalité. Bah, Chavrin. Et le peuple Chavrin. Parmi, c'est le peuple qui a envahi la Babylonie. C'est venu des Perses. Je ne sais pas si c'est les Perses, les Parthes. Il y avait différentes. Il y avait un peuple qu'on appelle Chavrin. Ils ont envahi la Babylonie. Kad ati Chavre le Babel. Comme ça, Rabbi Yochanan l'a dit. Rabbi Yochanan, quand il a entendu les Chavrin sont venus à Babel, il est tombé de la chaise parce qu'il avait peur, parce qu'ils étaient cruels. C'était un peuple qui venait, je ne sais pas d'où, de Mongolie, je ne sais pas d'où ils venaient. Ils ont envahi la Babylonie et ils étaient cruels. Rabbi Yochanan est tombé de la chaise. Après, on lui a raconté, mais si on leur donne du shohad, on peut s'arranger. Alors, il se remit sur la chaise. Ah bon, Hachem, avec du shohad, on s'arrange avec eux. Donc, ça s'appelait Chavrin, ces gens, le peuple Chavrin. Je ne sais pas comment on dit chez les Français. Il faut regarder l'époque de Rabbi Yochanan. Donc, dans les années 200, il y avait un envahissement de la Babylonie d'un peuple cruel. Il faut regarder dans l'histoire du monde qui c'était. Ah, il est là, docteur Messica. Ah, ça y est, il vient de se mettre. Alors, docteur, qu'est-ce que
tu dis? Je l'ai appelé au secours.
Ah, alors, qu'est-ce que tu dis? L'Agmara nous raconte que les chiens, que les chiens, il y a une animosité, ils se détestent l'un l'autre. Tu peux expliquer ça?
Il y a un programme en eux de vouloir faire le patron. Donc, tant que un, il n'a pas été le patron de l'autre, ou l'autre, il n'a pas été dominé pour le chien, par le chien, c'est le principe de la meute. Il y a un chef et il y a les autres, par cercle concentrique. Donc, il y a une animosité jusqu'à ce que se détermine qui ça va être le patron. Donc, il y a un patron, il y a un sous-patron, un sous-sous-patron, un sous-sous-patron. Il y a une animosité pour arriver à cet état-là.
C'est spécial chez les chiens ou c'est chez tous les mâles, chez les animaux?
Chez les hommes aussi, non?
Il y a un chien en chacun de nous. Un petit chien, des fois c'est un grand chien.
Mais attends. Mais est-ce que le chien sait plus que chez les autres animaux? Je parle des animaux qui accompagnent l'homme.
Par exemple, les chiens, c'est pareil. Les chats, c'est pareil.
Chez les taureaux et chez les béliers.
Je ne connais pas bien, mais taureaux, je pense que oui, béliers, pareil. Mais chiens, parce qu'ils vivent par meute, c'est une meute de chiens. Ils ont une certaine vie sociale, mais en meute. Et par exemple, il y en a un qui est il y a un seul qui est le papa de tous. Les autres ne sont pas papa.
Mais attends, tu parles ici des chiens sauvages. On parle des chiens sauvages dans la Loire ou on parle des chiens apprivoisés dans la maison?
C'est pareil, ça revient au même. Celui qui a un chien à la maison, ça revient au même. Celui qui a deux chiens à la maison, il se comporte comme des chiens sauvages dehors. À l'intérieur, c'est la même mentalité, c'est le même bagage génétique.
Bon, alors, d'accord. Pour ça, alors, on nous sommes à Fazonot. Il y en a qui disent que les zonotes aussi, elles ne se supportent pas l'un l'autre parce que chacune pense que l'autre épique les clients. Mais il y en a qui disent « Av talmide chachamim chebe bavel ». Même les talmides chachamim chebe bavel, il y a une animosité. Comme ça, la Gemara dit « Ouais. Comme ça, la Gemara nous dit, les talmides chachamim à Babel, il y a une certaine animosité, peut-être afin qu'on puisse bien disputer dans les lernen. Ce qu'on dit, et oibim bachar, quand on étudie, il faut essayer de contredire ce que l'autre dit. Il crée un limot de contradiction. Israël Selanter, il a dit comme ça, quand on étudie, il faut étudier giftik, comme ça il disait gift.
Rabbi Yochanan, il n'était pas en Eretz Israël, il parle des Babyloniens.
On ne parle pas de Rabbi Yochanan. Pourquoi tu parles de Rabbi Yochanan? On parle de Tano Rabbanan, c'est une braïta ici. Tano Rabbanan, je ne sais pas d'où c'était. Mais s'il dit Tamid Khanjim Babel, qu'on dirait que c'était quelqu'un d'Eretz. Mais en tout cas, Rabbi Israël Salanter, il a dit gift veut dire du poison. Et quand on étudie, il faut étudier avec du poison. Ça veut dire il faut lutter, se disputer pour mettre la halakha bien. Il faut essayer un avec l'autre. Donc, c'est une façon de l'étudier. Peut-être que ce n'est pas d'Afka méchant. Peut-être que ce n'est pas méchant. Tano Rabbanan. Avant, ils ont signé. Shlosho Ahavim Zehedze. Trois, ils s'aiment naturellement. Il y a une nature de s'aimer. Eilohen Hagerim, les convertis. Les convertis entre eux, ils s'aiment naturellement. Pourquoi? Parce que chacun. Et parce qu'il se trouve dans c'est la réunion de la minorité. Quand tu es en minorité, tu retrouves les gens qui sont dans la même situation que toi. Ça crée naturellement une collaboration, ça crée naturellement une amitié. Hagerim, Avadim et les esclaves. Chaque Eved, il se sent un peu exclu des Bnei Chorin. Donc, il trouve un autre Eved, il se sent proche de lui. Le Orvim et les corbeaux. Et les corbeaux, c'est quoi ça, les corbeaux? C'est corbeau, c'est l'oiseau corbeau. Le corbeau n'a pas bonne presse. C'est l'oiseau de mauvais augure, toujours le corbeau. Le corbeau, il a raté sa mission déjà à l'époque de Noach. Noach, il a envoyé les corbeaux, il était pivot, il n'est pas éloigné, il a tourné autour de la Teiva. C'est le corbeau, c'est le traître parmi les oiseaux.
Et il est tout noir en plus.
En plus, il est tout noir. Alors, ça lui fait un complexe, je suis noir. Donc, quand il voit un autre corbeau, il est content. C'est-à-dire, parmi tous les oiseaux, parce qu'il y a des oiseaux qui ont des très belles couleurs. Il y a des oiseaux qui ont le bec qui est rouge et vert et jaune et doré et violet. C'est beau comme ça. Et lui, il est pauvre, il est tout noir. Alors, il est complexé. Donc, il va à un autre corbeau. Il se sent bien. D'accord. Orvim. Arba'a, en hadat sovlatan. Il y a quatre catés, gouris, que l'esprit ne supporte pas. C'est insupportable. C'est quelque chose qui dresse les cheveux aux gens. Et Rachid dit, même eux-mêmes, ils ne se supportent pas. Elohendal, ge'e. Un pauvre orgueilleux. Un pauvre qui parle avec chutzpa avec le riche. Il est bête comme un clou. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés comme ça, il est mitgaé, il est avec la tête haute, orgueilleux. Et que même quand il demande staka, il est orgueilleux. Et après, les gens, ils n'aiment pas ça. Eh, vous me donnez, non, ils vont donner plus. Eh, quel chutzpa, pourquoi on ne lui donne pas plus?
Rabbi Ariel.
Oui, je vous écoute.
Depuis tout à l'heure, vous cessez la Gemara, vous le citez parce que la Gemara ne cesse de citer que ceux qui sont en bas de l'échelle. Elle ne cite que ceux qui sont en bas de l'échelle. S'agissant du corbeau, c'est parce qu'il est en bas de l'échelle qu'il a été choisi dans la Gemara pour être le Ah!
Oui, tout le temps.
J'ai coupé.
Oui, rapproche-toi parce qu'on a, il y a quelque chose avec le. Voilà, c'est
allô.
Bon. Oui, je vous écoute. Dites qu'est-ce que vous dites.
Pour être celui qui va récupérer tout ce que les individus, les entités tamées ont fait de négatif, le serpent qui mange la grenouille grosse comme ça, mais non, la grenouille c'est des grenouilles qui sont gentilles, etc. Et le corbeau c'est lui qui est le plus bas, et c'est même le plus bas qui fait le plus haut puisqu'il remonte sur le Yidan. Et Marc Brac va dire que quand il monte sur le Yidan à 14,
c'est
le Yidan à 14.
Bon, c'est pas, le voix n'est pas très claire, on vous entend pas très clair.
Le corbeau.
Oui, mais le corbeau, il est le plus bas d'échelle. Alors, qu'est-ce que vous dites en deux mots?
Il va monter le plus haut, puisque c'est lui qui va récupérer toutes les entités tamées et qui va leur faire réintégrer le Ilan Akadosh. Il va
d'accord.
Leur faire réintégrer le Ilan Akadosh dans la Gemara Bava Batra.
D'accord.
Et le Mara Batra va dire, c'est pour ça que rien ne peut disparaître.
D'accord. Très bien. Alors, Arba, on va continuer. Arba en hadat sovlatan. Il y a quatre que l'esprit ne supporte pas. Elohen dal ge'e. Le pauvre qui est orgueilleux. Donc, il va se faire lui-même du mal. Il va se faire avoir. Parce que comme il est mitga'e, et les gens, ils disent, mais tu es un pauvre. Donc, c'est toi qui me demandes. Alors, je suis gentil avec toi. Qu'est-ce que tu mitratsef? Pourquoi tu la choutes pas avec moi? Donc, il va se faire griller. Et après, il va se faire avoir, il va se pas supporter lui-même. Rashi raconte, Enadat Sovlatan, Rashi dit, Afilohen Atzman Nitchartin Lachazman. Eux-mêmes, ils regrettent après leur attitude. Venivzinhen Bifne Atzman, ils se méprisent. Mais pourquoi je suis un idiot comme ça, que je rate toujours mes occasions? La Ga'ava du Dal va lui faire rater les occasions. Veashir Mekachesh, et un riche qui nie. Un riche qui nie, c'est-à-dire quelqu'un, il a confié 1000 euros à un pauvre et le pauvre il nie. Ou un homme, il a confié à un riche et le riche il nie. Qu'est-ce qui est le plus moche? Le riche qui nie. Tu es riche et tu oses de ne pas rendre ce qu'on t'a donné. Ça, c'est moche. Et en quoi c'est... Les gens qui entendent ça, ils disent, mais ça, c'est pas logique. Ça tient pas la route. Et puis, il est millionnaire et après, il rend pas l'argent qu'on lui donne. C'est insupportable. Mais quel est le pshat? Pourquoi est-ce qu'ici on peut aussi dire ce que Rashi dit? Afilu hen atzman nitchartin achazman. Même eux, ils ont charata. Après, ils ne se supportent pas. C'est-à-dire, il faut dire que c'est un riche qui a une telle attitude de nier qu'il se fait avoir lui-même et après, ça lui coûte cher. Ça veut dire qu'après, les gens, ils sont mauvaisés. Tu es riche et tu mens et tu voles. À la fin, il dit, mais je suis bête, mais pourquoi j'ai fait ça? J'étais obligé de faire. Je me suis acheté maintenant un mauvais renom, mais maintenant tout le monde rigole de moi. Mais pourquoi je le fais? Mais bête que je suis, j'avais pas besoin de ces 1000 euros. Pour ces 1000 euros, j'ai perdu maintenant ma crédibilité dans la ville. Lui-même, il se range lui-même parce qu'il s'est abîmé. Zaken Menaef, ou un vieux qui fait l'adultère. Un jeune qui fait l'adultère, on peut comprendre. Un vieux qui fait l'adultère, mais on prend pour un ouf. Mais tu n'as pas des grands Yetzarara, qu'est-ce que tu as besoin de ça? Donc lui, après, il aura un grand un mauvais renommé. Après, il va s'arracher les cheveux. Mais qu'est-ce que j'étais bête? Pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce que j'avais besoin de ça pour me salir dans la ville? Ou Parnas, Midgae al-Hatzibur Bechinam. Un Parnas, Parnas, c'est-à-dire un chef, un roi, un maire, un député, un maire. Midgae al-Hatzibur Bechinam, qui s'enorgueillissent sur la communauté Bechinam. Gratuitement. Ça veut dire quoi? Gratuitement. Ça veut dire gratuitement, pas pour faire du bien. C'est-à-dire qu'il existe un chef qui s'impose contre la volonté du peuple pour le bien du peuple. Imaginons-nous qu'un président il considérera que la promiscuité pendant une maguefa n'est pas bonne. Il faut sous prix que les gens restent à la maison. Il s'impose, il va demander des amendes aux gens qui font un pagaille. Alors, il s'impose sur les gens, mais les Shem Shemaim, pour le bien des gens. Mais si ce n'est pas les Shem Shemaim, il ne s'impose pas les Shem Shemaim, alors ça, c'est insupportable. Vieille Shomrim, il y en a qui disent « Ah, famagarech et ishto b'am rishona, vishnia ou marzira. » Aussi, un homme qui se marie, il divorce sa femme, après il se remarie avec elle, il la divorce une deuxième fois, il la reprend une troisième fois. Alors là, c'est Bahad Maboul, il est insurmontable ce type. Un jour comme ça, un jour comme ça. Ça ne fait pas comme. Tu décides, tu as divorcé une fois, d'accord. Tu as repris, bon, c'est bien. Tu es venu au Sechel, il reprend sa femme, c'est bien, c'est bien. Mais ça tourne de nouveau par an. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne supporte pas, il divorce une deuxième fois. Et après, il la reprend. Alors là, tu me chougas. Ah, t'es un sugar. Alors, pourquoi tu l'as divorcé une deuxième fois? Quand tu divorces une deuxième fois, il ne faut pas divorcer une deuxième fois légèrement. La première fois, il a divorcé un peu trop légèrement. Alors, il regrette, il reprend. Mais avant de divorcer une deuxième fois, il faut que tu sois sûr et certain que ça tourne par an. Si peu, ça tourne rond, tu ne divorces pas. Donc, la deuxième fois, il faut divorcer seulement si vraiment ça ne marche pas. Et après, il le reprend. Et alors, Camus, un sugar. Alors, donc ça, c'est insupportable. Il va regretter, il va prendre une deuxième fois, il va divorcer une troisième fois. Il est pas normal, il va regretter ce qu'il fait. Le Tana Kama est le premier Tana. Non, le premier Tana n'y dit pas Megazidishto, parce que ça pourrait se justifier de Ktuva Tamaruba, parce que la Ktuva, il était peut-être trop cher. Quand il se mariait, il a dit, je vais payer 500 000 euros. Et quand il a divorcé, maintenant il faut passer à la caisse, il faut donner 500 000 euros, il n'avait pas. Alors il a repris. Après ce tour par an, il divorce une deuxième fois. Après maintenant, paye, mais n'arrive pas à trouver les 500 000. Et alors il est obligé de la reprendre. Donc c'est possible que des fois on peut faire une folie comme ça parce qu'on est coincé à cause de l'argent. Inami, yesh lo bani memenu. Ou il a d'enfants d'elle, velo matzi megarish la. Et il voit que les enfants. Il souffre trop, alors il la reprend pour pas que les enfants soient des enfants divorcés. Donc, ça pourrait aussi se justifier. Bon, on va arrêter ici. On va se reprendre à quelle heure? Ce soir, à 9h, Bezat Hashem. Qu'on entend des bonnes nouvelles.